La Prairie, un documentaire à Toulouse de Charlotte Rouault et Benoît Bory.
Et avec parfois des enfants qui arrivent ici parce que la maîtresse a dit qu'il était nul, ou qu'il n'avait pas le niveau, ou que voilà quoi.
Il a 6 ans, il est en CP. Au bout de 2 mois, t'as l'impression qu'il va passer le bac dans 3 jours.
Et j'avais peur de me faire gronder encore une fois dans la journée. Et la raison, chaque journée, je me faisais gronder.
Oui, mais maintenant, j'aimerais savoir où est venu mon
gars. Est-ce que tu es là ?
Le 27 septembre 2011, dans toute la France, les écoles privées se sont mises en grève et ont défilé auprès des écoles publiques. La Prairie, école privée d'éducation nouvelle qui accueille des enfants de la maternelle au collège, n'a pas attendu cette mobilisation historique pour se battre aux côtés de l'école publique et en défendre les valeurs.
Moi, je pense que vraiment les apprentissages, jusqu'en fin de primaire, c'est beaucoup la confiance que l'on donne aux enfants, quoi.
Moi, je préfère dire école associative, laïque.
Même nous, de façon éthique, on est plus proche des valeurs du public, du service public, que des valeurs de l'enseignement privé.
Alors la Prairie, c'est une association d'éducation nouvelle, donc association loi 1901.
Agnès Boutboul.
On est sous contrat d'association avec l'éducation nationale.
Secrétaire de la Prairie.
C'est-à-dire que donc, les enseignants, collèges et écoles sont rémunérés donc, par l'éducation nationale. Par contre, tous les autres salariés, tous les autres postes ont comme employeur l'association, quoi, la veine La Prairie. Et de par notre statut sous contrat, on touche donc des subventions de la mairie pour l'école et du conseil général pour le collège qui nous permettent justement de rémunérer les salariés.
Le statut du collège.
Daniel Terra, principal du collège.
Alors nous sommes un collège privé, laïque, sous contrat. Alors privé, l'enseignement privé majoritairement, enfin plus que majoritairement, et aux 3/4 à 90% enseignement catholique. Nous sommes le petit canard différent des autres, établissement privé laïque. Et on affirme, on est très peu hein, au niveau de l'enseignement enfin, à Toulouse. Et ce sous-contrat d'association, ça veut dire qu'on est tenu, avec l'académie, on est tenu de faire le programme officiel, avec bien entendu les applications que l'on met, les méthodes actives qu'on essaie de développer, mais on est tenu à assurer le programme officiel avec le cadre institutionnel de l'éducation nationale en France.
Alors parce qu'en Haute-Garonne, l'école privée, elle est à 99% confessionnelle, catholique ou musulmane ou juive.
Patricia Motte, enseignante à la Prairie depuis 4 ans.
Mais donc ça a un rapport avec la religion. Et nous, on est la seule école privée de Haute-Garonne à être laïque. C'est-à-dire que ici, c'est pas une école confessionnelle du tout. On pourrait être une école publique, sauf qu'on est privée. Voilà.
À ma connaissance, c'est le seul établissement privé qui permet d'indexer les cotisations sur les salaires.
Emmanuel Pépin, parent d'élèves à la Prairie.
Déjà, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui payent presque rien pour scolariser leurs enfants ici. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui payent, il y a une limite, mais qui payent beaucoup. Donc il y a une énorme... Il y a une certaine mixité sociale ici. Après, il faut quand même convenir que c'est plutôt une population d'intellectuels plutôt favorisés dans leur métier, disons, voilà, c'est pas, même s'il y a des exceptions.
Alors, on a plusieurs types d'enfants. On a très la minorité, c'est les enfants qui viennent du quartier, des familles qui habitent dans le quartier, qui préfèrent pour des raisons X ou Y faire le choix d'une école privée. Et donc on est l'école privée du quartier, on vient là. Ça c'est vraiment ultra minoritaire. Après les deux grands pôles, c'est des gens qui font le choix d'une éducation différente. Donc souvent des familles qui arrivent dès la maternelle ou dès l'entrée au CP. Soit parce que c'est des familles qui ont eu des grands enseignements publics et ils ne sont pas satisfaits de ce qui s'est passé, soit parce que c'est des familles qui ont une réflexion sur l'éducation, sur des formes alternatives de vie, des choses comme ça, et donc elles arrivent ici. Ça, c'est une grosse moitié. L'autre grosse moitié, c'est des gens qui arrivent, alors là, à partir du CP, vraiment, et puis souvent au cycle 3, à partir du CE2, des enfants qui ont été scolarisés dans le public, pour qui ça s'est mal passé. Alors, soit que l'enfant est en souffrance, soit que les parents ont été en souffrance avec l'école, c'est-à-dire dans le rapport qu'ils ont eu avec l'institution, et où à un moment la souffrance a été telle qu'ils se sont dit qu'il fallait changer, quoi. Qu'il fallait voir ailleurs. Alors souvent c'est des parents qui arrivent, soit parce qu'on leur a parlé, on leur a dit « Ah mais, va voir la prairie », soit parce qu'ils ont fait le tour des écoles privées pour voir ce que c'est. Il y a des enfants comme ça qui arrivent après être partis du public, avoir fait un moment à l'école privée Cato du coin, puis...
Il y avait, au départ, Marie de Valls.
Jean-Pierre Quéret.
Qui est d'une famille toulousaine, une famille catholique toulousaine, catholique...
enseignant à la Prairie depuis 38 ans.
De gauche, quoi, tu sais, on peut dire catholique de gauche, a suivi à Paris les enseignements de deux grands pédagogues, Châtelain et Cousinet. Et quand elle est... revenue à Toulouse, elle a donc commencé à travailler dans une petite école, elle a formé une petite équipe autour d'elle, et avec ces principes, disons, de travail en groupe, de l'élève considéré dans sa globalité, enfin, etc. Tous ces principes qu'on a gardés pour l'école nouvelle en général, elle les avait déjà appliqués dans cette petite école. Et puis, elle a eu l'occasion, parce que c'est l'école où on est, là, qui s'appelait avant Notre-Dame du Sacré-Cœur, enfin, c'est une école de bonnes sœurs, elle tombait en ruine, quoi, enfin en ruine, je veux dire, financièrement, quoi. Et donc, elle a pu reprendre cette école, ce qui fait qu'elle a donc repris un certain nombre d'enseignants qui étaient déjà là avec les sœurs, et puis avec toute sa nouvelle équipe, quoi, et puis des nouveaux. Donc elle a créé ça en 69. T'imagines, en 69, juste après 68. Imagine-toi qu'avant, dans l'école du Sacré-Cœur, là, l'école privée catholique, il y avait une cour pour les riches, une cour pour les pauvres. Il y avait une cantine pour les riches, une cantine pour les pauvres. Et donc quand Marie de Valls est arrivée avec ses nouvelles idées, avec sa nouvelle équipe, ça a tout chamboulé ça, quoi. Et puis évidemment, au départ, ce que j'ai oublié de dire qui est très important, c'est qu'il y avait des parents au départ. Et que dès le départ du projet... d'éducation nouvelle de la Prairie, ça a été une école fondée avec un groupe d'enseignants, mais aussi avec un groupe de parents.
Bon, possiblement, dans ta boîte, il peut y avoir une de ces deux valeurs. 25 valeurs ou 33 valeurs. Donc t'en es à 25. Mais il fallait pas regarder. Il fallait attendre la dernière heure du banquet. T'es pénalisé et tu gagnes zéro.
C'est une école associative, c'est-à-dire que les parents représentent la moitié du conseil d'administration. Ce sont eux qui ont les postes décisionnaires, de président, de trésorier, de secrétaire.
Déjà, il y a un dialogue avec les enseignants qui est très ouvert. C'est-à-dire qu'on discute de nos enfants avec nos enfants, des problèmes qu'ils rencontrent. Et là aussi, la discussion est intelligente. C'est-à-dire qu'on nous demande, lorsqu'il y a des problèmes qui se posent de comportement ou d'enseignement, il y a toute une démarche qui est mise en place avec l'enfant, avec ses parents, avec les éducateurs. Chaque problématique est traitée de manière assez globale. Et donc, nous, on est inclus dans cette globalité en tant que parents. Et on intervient à notre niveau. On n'intervient pas au niveau du pédagogique ou de la discipline, mais on nous informe, on est en lien avec toutes les personnes qui s'en occupent, et ça crée une dynamique très efficace, parce que l'enfant, du coup, on lui parle de la même chose partout. Et à chaque fois que ça, j'ai pu l'observer, les problèmes sont réglés de manière très efficace. Parce qu'il y a, comme dans tous les établissements, des problèmes de discipline, des problèmes de scolarité. Et cette place-là, elle est modeste, mais extrêmement efficace. Et après, il y a une deuxième place qui est celle de pouvoir s'investir dans l'association elle-même pour aider à son fonctionnement. Et ça se situe moins... C'est pas vraiment sur le pédagogique, là. C'est plutôt sur l'organisation, soit de l'association elle-même, comme dans toutes les associations, il y a beaucoup de choses à faire, soit en proposant des activités. Par exemple, il y a des parents qui sont natifs d'autres pays et ils peuvent proposer des initiations à leur langue ou à des choses qui leur tiennent à cœur, comme des passions. Et en général, ils ne le font pas dans la classe de leur enfant, ils le font dans d'autres classes. Mais voilà, on peut intervenir à ce niveau-là.
Alors, je m'appelle Sandra, je viens d'Allemagne et j'ai 3 fils ici à la Prairie depuis un moment maintenant. Et en fait, de formation, moi, je suis aussi professeure de collège et lycée. J'ai été formée en Allemagne. Et donc, en fait, je trouve un peu les principes pédagogiques à la Prairie que moi, j'ai appris en Allemagne. Donc, c'est pour ça un peu que les enfants sont là aussi. C'est vrai, je ne connais pas très bien. Je sais seulement ce qu'on m'a dit, mon mari, qui était à l'école publique ici en France, quoi, et qui m'avait parlé de classement, qu'il y avait un premier dans la classe, qu'il y avait un prof sur une espèce d'estrade qui faisait son cours sans forcément impliquer les enfants, quoi. Et moi, en Allemagne, j'ai appris quand même que... il vaut mieux que les enfants soient acteurs de leur apprentissage, quoi.
Rachid donc avait l'année dernière 6 ans et au bout de 2-3 mois elle nous a dit mais moi l'école en fait je suis pas bon, l'école c'est pas fait pour moi.
Éric Dourel, parent d'Achille qui vient de quitter l'école publique.
Il a 6 ans, il est donc en CP. Au bout de 2 mois, tu as l'impression qu'il va passer le bac dans 3 jours. C'est-à-dire qu'il a des devoirs en voiture en volant, qu'on lui a mis une grosse pression sur la figure. Et qu'on lui dit, en fait, t'es nul, quoi. T'es nul parce que, oui, t'as une belle écriture, oui, tu te démerdes bien en maths, mais tu confonds le preux, le treux, le creux, le freux, tout ça. Je veux dire, normalement, c'est à la fin du CE1 qu'on sait lire et écrire. Donc, on lui met une telle pression qu'en fait, c'est lui qui te dit, ah, j'ai une récitation dans 2 jours, il faut que je la sache par cœur, il faut que... Il est complètement flippé de ne pas savoir cette histoire-là. C'est surtout de paraître le gamin qui n'a rien fait devant sa maîtresse. Et sa maîtresse qui exerçait une autorité de général en activité, même pas à la retraite. Quoi. Plus tu enfonces les gens, plus à un moment donné, ils explosent. Je veux dire, c'est prouvé, on le sait tous. Quoi. Donc, c'est pas, tu vois, c'est cette manière de faire de l'éducation est naze.
Bon, en tant que parent, c'est un projet qui est très axé sur l'autonomie et sur le respect des élèves. Hein. Et ça, je crois que ça se remarque de suite. Voilà, je pense que c'est la première chose qui saute aux yeux, effectivement, c'est l'accueil des enfants qui est fait ici, quoi. Et puis le dialogue qu'il peut y avoir, le contact qu'il peut y avoir entre les parents et puis les adultes d'ici. Enfin, voilà, c'est ce que moi j'appellerais une école ouverte, quoi. C'est-à-dire que la porte n'est pas fermée, elle n'est jamais fermée. Et puis, je pense que vous avez vu, quoi. Je veux dire, on peut rentrer, enfin, les parents peuvent rentrer chercher leurs enfants, dans la cour, dans les classes, enfin, ils peuvent discuter avec les enseignants. Il n'y a pas une barrière, quoi.
Rudy, je t'entends beaucoup trop. Rudy.
Ici, c'est un choix qui s'appelle éducation nouvelle. Ça veut dire c'est un ensemble de méthodes qui est basé sur des méthodes actives. Le tâtonnement, la recherche pour de vrai, partir de ce que les enfants amènent, de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ont envie de savoir. Donc ça, c'est le début, c'est la base. C'est rarement l'enseignant qui amène les choses. Et ensuite, procéder, non pas par des exercices systématiques, mais par de la recherche active, en utilisant le monde qu'on a autour, en se posant des questions, en essayant d'y répondre. Une démarche un peu expérimentale. Et puis un statut particulier de l'erreur, et à l'enfant. C'est-à-dire que l'erreur, pour nous, c'est une forme d'apprentissage.
Si tu veux, dans ma classe, j'utilise un certain nombre de dispositifs pour permettre la parole des enfants, pour permettre la parole libre des enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont parler n'importe quand. Ils vont parler dans un certain cadre, quoi. Donc, on met en place un cadre avec une loi de la classe, avec des règles de vie. Et puis, après, on partage les responsabilités dans la classe. Bon, on appelle ça des métiers. Ça se fait dans beaucoup d'écoles. Il y a une équipe, c'est par 15 jours que ça se renouvelle, mais il y a une équipe d'enfants qui s'occupe du ménage, une autre de la distribution, d'autres de ranger les étagères, etc. Et puis on travaille. Il y a un principe qui nous guide quand même, c'est celui qui sait aide celui qui ne sait pas. Ça, c'est le principe de la coopération par rapport à la compétition, versus compétition, quoi. Et nous, ce qu'on essaye de vivre effectivement dans la classe, c'est ça. C'est un travail en groupe.
Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'il y a eu là ?
La loi de la classe. Ici, c'est une classe. Chacun est là pour apprendre, chacun travaille. Ici, chacun respecte les autres. On ne se moque pas, on ne se bat pas, on ne règle pas les problèmes par la violence. Ici, chacun a le droit d'être tranquille dans son corps, dans son cœur et dans ses affaires. La loi de la classe n'est pas négociable.
On range les chaises et les tables.
On montre par exemple les activités que font les enfants.
Marie Duperron.
On les montre aux copains après.
Enseignante à la Prairie depuis 20 ans.
Par exemple, on fait un jeu en psychomotricité qui après va donner, par exemple, chez les tout-petits. On va travailler la ronde, on va faire plein de jeux pour aller vers le rond, le geste graphique et tout ça. Et le jour où on va leur dire, ben là, aujourd'hui, on va dessiner la ronde, etc. Il y en a qui vont faire des spirales, il y en a qui vont faire un grand rond, il y en a qui vont faire des petits ronds, etc. Mais il n'y a pas de réponse juste. Nous, ce qu'on regarde, c'est ça y est, il a compris, ça tourne. Donc, il y en a qui arrivent à arrêter le geste là, et d'autres qui sont encore dans la spirale et le geste ne s'arrête pas. Mais on montre tout ça à tout le monde. Et voilà, chacun a réalisé l'activité à sa façon à lui. Petit à petit, il va arriver à faire le rond. Mais quand on fait la réalisation, on ne se demande pas qui a bien fait et qui a mal fait, quoi. On essaie beaucoup d'être dans une attitude avec eux où il n'y a pas ce qui est bien, il n'y a pas ce qui est mal, quoi. Voilà, chacun a fait son petit bonhomme de chemin. Et entre eux, parfois aussi, juste de voir comment les autres ont fait, eh ben, ça leur donne des idées. Et la fois d'après, quand on le reprend, pouf, ils sont dans l'imitation de l'autre, mais pas dans l'imitation de l'adulte ou pas dans l'imitation de ce que l'adulte demande précisément.
Qu'est-ce que c'est, Gabriel ? Qu'est-ce qu'on fait quand on entend le maracas ?
C'est l'heure de ranger. Très bien, elle s'appelle
B.
Dites-le. B. Et quel bruit elle fait ? Oui, très bien. Faites-le, tout le monde, je n'entends pas bailler.
Comme on part de ce que les enfants amènent et de ce qu'ils savent, on considère qu'ils apprennent parce qu'ils font des erreurs. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'erreur, c'est qu'on sait déjà, donc ce n'est pas qu'on est en train d'apprendre. Et ça a l'air de rien comme ça, mais ça change plein de choses au quotidien. C'est-à-dire que ça devient pas important de faire des erreurs. L'important, c'est d'en parler et de développer des stratégies pour éviter d'en faire. Et surtout, ça devient complètement stupide de copier ou de cacher. Voilà. Et donc, à partir de ça, on peut travailler en coopération et dire, bon, ben voilà, on s'aide. On a très vite des enfants qui sont capables de dire, ben moi, j'apprends ça, mais j'y arrive pas là, ou j'ai un problème là, ou je peux t'aider là parce que là, j'ai compris, mais là, tu m'aideras parce que j'y ai pas compris. Voilà. Et ça développe un autre rapport au savoir, en fait, comme quelque chose qui est vraiment en construction.
Moi, par exemple, quand on parle de violence dans les écoles, d'agressivité ou de choses comme ça, quand je vois comment nous, on arrive à faire parler les enfants, à leur faire régler les conflits entre eux, à être attentifs à ce qui se passe dans leur vie d'enfant, dans la cour et tout ça, et comment ils arrivent eux-mêmes à trouver des solutions, il y a des moments magiques. Enfin, moi, j'ai des souvenirs même en CP. Chez les petits, ça démarre à peine, mais c'est super joli de voir comment ils arrivent entre eux à s'expliquer, à se dire pourquoi il s'est passé ça. Souvent, quand on en voit un qui tape, on aurait tendance à se fâcher avec celui qui tape. Puis en fait, quand on les fait discuter, on se rend compte que celui qui tape, c'est parce qu'avant, il s'est passé plein de choses. Et quand ils arrivent à se dire ça, ça passe, quoi. Et ça, je trouve que ça demande du temps. Ça veut dire qu'il faut le prendre en compte. Et quand on prend les choses en compte, eh ben, il faut prendre le temps de les prendre en compte. Et ça marche. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que quand je vois les programmes et tout ce qui est demandé, il y a énormément d'exigences. Et moi, je me dis que là-dedans, ben, il faut faire des choix.
Ça va, je vois tout le monde. Samuel, tu veux bien te pousser un peu ? Voilà. Alors, je déclare le conseil ouvert.
On essaye, en tout cas, nous, à la Prairie, de vraiment valoriser les réussites de chacun, quoi. Et tu peux, c'est incroyable, les changements. Un gamin qui arrive dégoûté de l'école parce qu'il a été brimé, etc., avec deux, trois moments comme ça où tu lui dis bravo, là, t'as réussi, tu le vois s'éclairer, quoi. Alors, il y a vraiment des... Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire, si tu veux, pour... Enfin, je veux dire, tout le monde pourrait le faire, quoi. Toutes les écoles pourraient le faire, tu vois. On n'est pas des instituts spéciaux ou géniaux du tout, quoi. On est des instituts de base et avec des principes, je sais pas, de respect, quoi. De respect, finalement. On arrive à rattraper des gamins très abîmés, quoi.
Les gens qui s'occupent des enfants s'appellent les éducateurs.
André Habib, responsable du périscolaire.
Bon, éducateur, c'est une formation, c'est un diplôme, c'est quelque chose de particulier, donc c'est toujours un peu pas tendancieux, mais ici, le terme éducateur, il veut dire qu'on se préoccupe de l'éducation d'un enfant, on est là pour aussi l'accompagner dans ce parcours de vie, là. Et donc, à ce titre-là, les gens de l'atelier, les gens de l'administration, le SELF, ils sont éducateurs aussi. Voilà. Donc, c'est quand même une autre reconnaissance, au moins de la position des adultes dans l'école. Ça, il n'y a pas ailleurs, il n'y a qu'ici. Après l'année dernière, il y a deux ans, là, on s'est mis à réfléchir, mais pas écrit, sur justement notre positionnement par rapport à la sanction, à l'idée d'activité, d'atelier, parce qu'on n'entend pas tous la même chose quand on dit ces mots-là. Et l'articulation qu'on pouvait faire avec le projet d'éducation nouvelle. Voilà. Et ce que nous, on en entend déjà quand on dit éducation nouvelle. Et donc ce qu'on doit ou pas mettre en œuvre après auprès des enfants. Donc oui, on propose des ateliers, mais pas tout de suite et pas avec un planning où les enfants s'inscrivent et où il y a une espèce de « je dois y aller parce que je me suis inscrit ». Donc au début de l'année, jusqu'à peu près la Toussaint, on ne court pas après la mise en place d'ateliers, si ce n'est que le potager est là. Donc il fonctionne, il y a un animateur qui va y aller, donc des enfants vont lui demander « qu'est-ce que tu fais ?» Donc voilà, donc là ça commence. Les animateurs sont dehors, donc c'est pas des ateliers, mais il y a du matériel aussi. Donc ils font des jeux, ils aménagent des espaces avec les enfants quand ils ont besoin, etc. Ils les regardent aussi, ils les observent. Et après, ils essayent de proposer, c'est une alchimie entre leurs compétences, les envies des enfants, ce qu'ils ont repéré, parce que des fois, les enfants disent pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais l'animateur peut, en regardant des enfants jouer, puis voilà.
Par contre, c'est le rapport des enfants avec l'école qui est très différent ici. On n'a pas du tout, même en élémentaire, d'enfants qui aient peur, qui n'aient pas envie de venir, qui n'aient pas envie de passer au tableau. Voilà. C'est comme c'est posé qu'ils ont le droit d'avoir envie ou pas. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne veut pas passer au tableau, à partir du moment où il le dit « je ne veux pas le faire » ou « ça me fait peur », il ne va pas le faire. Et ça, c'est respecté. Du coup, les enfants, ils gagnent en confiance. Et c'est vrai que ça change tout sur le quotidien. C'est voilà. Nous, les élèves, ici, ils viennent avec plaisir. Et ça, c'est énorme. Après, le rapport à l'institution, ouais, il y a beaucoup moins de violence. D'ailleurs, il y a vraiment une écoute ici de l'enfant. Et je ne dis pas que les collègues ne le font pas dans le public parce que ils le font. Enfin, il y a un tas de gens super qui enseignent ailleurs. Hein, c'est pas là. On n'est pas en train de taper sur le public. Mais je pense que la pression ici, elle est très différente d'ailleurs. C'est-à-dire que d'abord parce qu'on est dans une petite niche et que ça nous va bien. Et puis parce que on a vraiment une équipe. Les gens ne tournent pas ici. Moi, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur la personne qui partait à la retraite. Mais sinon, les gens restent. Donc, ils sont installés depuis des années. Ils ont des relations avec les parents depuis des années. Ils ont vu passer une, deux générations d'enfants. Et ils travaillent ensemble depuis 10, 15, 20 ans. C'est énorme, ça.
Les emplois du temps des élèves de 6e ne bougent plus. Hein, ils ont éducation musicale comme prévu. 5e aussi. Les arts plastiques reprennent les arts plastiques en 4e et 3e. Il ne reste que les modifications de techno. J'interviens encore dans toutes les classes.
Un établissement public est géré par y a une intendance, enfin tout est réglé, on ne sait pas trop qui commande qui dans un établissement public, s'il y a le principal, il y a le directeur des services administratifs et tout ça. Nous on est dans une gestion associative loi 1901, donc chaque maillon est personnalisé, ce sont des parents qui sont majoritaires, il y a un président, ce qui fait qu'à côté de nous on a une petite structure à l'échelle humaine, qui gère tout ça. Et donc, tout est à l'échelle humaine et tout est compréhensible. Donc, on a une lecture rapide de comment ça fonctionne. Et le système de l'autogestion, qui est développé par ce dispositif-là, conduit à faire un travail de remise en question derrière l'autogestion. Tout le monde est responsable à son niveau. Tout le monde doit assurer un certain niveau. Et ça peut influencer certainement le rôle d'un enseignant. Dans un établissement comme ça.
Donc, qui va être délégué ?
Mais il y a des choses qui sont instituées sur l'école, par exemple, comme ça, comme le tutoiement. Tout le monde se tutoie, tout le monde s'appelle par son prénom, mais après, tout le monde a des règles de communication, de civilité. C'est-à-dire que le tutoiement et l'appel par le prénom n'empêchent pas de demander s'il te plaît, merci, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ce qui est peut-être différent, c'est que les règles, elles s'appliquent dans les deux sens. Si un adulte a besoin de dire quelque chose à un enfant ou si un enfant a besoin de dire quelque chose à un adulte, les mêmes règles vont s'appliquer. Il n'y a pas le fait d'être plus grand qui donne un pouvoir supplémentaire sur l'autre, même si de fait on a un pouvoir et un savoir qui est différent d'un enfant. Mais dans la relation elle s'établit sur les mêmes bases des deux côtés. On ne dérange pas un enfant qui travaille, par exemple, ça c'est une des phrases type de cousiner. Donc effectivement, on ne frappe pas aux portes ici quand on rentre dans les classes. Parce que frapper, ça veut dire déranger le travail, donc on se fait discret. Mais par contre, la circulation est libre. Et de même, les enfants attendent avant d'aller déranger d'autres enfants, que la conversation soit finie, que le travail soit fini.
Excusez-moi, mais c'est tout à fait antidémocratique. Ça s'appelle acheter des voix, et tu n'as pas le droit de faire ça. Donc pas de tournée de bonbons et d'autres choses.
Aux parents nouveaux, on leur dit ici, on considère d'abord l'élève parce que c'est un collège, mais on considère l'individu comme un futur citoyen aussi. Et c'est ce qu'on veut essayer de mettre en place dans toute la pédagogie institutionnelle qu'on développe, c'est-à-dire les conseils d'élèves, le grand conseil, les lieux de parole. Tout ça, c'est la pédagogie institutionnelle qui vous donne les droits de parole officiels. Et à partir de ça, on vise le futur citoyen que vous allez devenir. Avoir le droit de revendiquer, enfin la place de revendiquer vos droits. Vous n'êtes pas seulement un élève, et ici on se tait, c'est vous êtes un élève et vous avez des droits à faire valoir. Et ça, on veut les entendre, et on vous apprend à le dire.
Quand on a eu des problèmes dans la cour, Kada nous a fait mal. Et qu'il nous a dit des insultes sur nous ou sur nos parents. On le marque au conseil de classe et on le règle. Et après, on essaye d'arranger pour que ça aille mieux.
En fait, il nous laisse apprendre, imaginons les divisions,
à notre allure et puis ils ne nous font pas apprendre directement à les poser. Ils nous font des petites histoires mathématiques avant de l'apprendre ou des histoires de grammaire ou de conjugaison. Moi j'aime bien parce que dans notre école, eh bien, à chaque fois, eh bien, on apprend en CE1 les divisions, alors que maintenant en CM1, on apprend, c'est une méthode freinée, et puis alors que dans mon ancienne école, eh bien, à chaque fois, eh bien, on faisait plus vite, et ça nous énervait à tous. On classe pas avec des notes, voilà. Par exemple, ceux qui sont pas très, très forts, on les met avec les plus forts dans les classes pour qu'on puisse aider. Par exemple, si tu as quelqu'un qui n'est pas très fort en maths et que toi tu l'es, tu peux l'aider et comme ça, il a moins de problèmes. Et chacun peut apprendre donc à son rythme.
C'est qu'à la Prairie, on a à peu près une ou deux semaines pour se remettre dans le bain de passer des deux mois de vacances.
Lola et Louison.
À la rentrée directe, on a...
Anciennes élèves.
Une semaine pour vraiment connaître la classe, pour faire le tour des présentations, le tour des règles, tout ça. Le lycée, t'as une demi-journée pour présentation des profs de l'emploi du temps. Le lendemain, t'as l'emploi du temps, t'arrives avec tes affaires. Le prof, il dit bonjour, je m'appelle comme si. Le programme, c'est machin, prenez une feuille. Voilà, c'est vraiment cash, quoi.
Le lycée, c'est... terminer le programme, mais tous les jours les profs c'est on est en retard sur le programme, c'est alors que après bon il faut faire attention au programme, mais c'est d'abord que l'élève comprenne avant de faire le programme, quoi.
Quels sont les pays qui produisent du pétrole là, tu le vois là?
Les États-Unis, le Venezuela et le Mexique.
Ben voilà, alors tu regardes là dedans alors.
Ah oui, d'accord, j'ai compris.
De fait, on est vraiment sur des valeurs de service public. Bien qu'on soit une école privée, donc ça veut dire qu'on milite avec le service public, on a milité, fait la grève pour la défense du service public, on a été depuis 2008 de toutes les manifestations avec les fédérations de parents un peu partout, mais on est un peu décalé. Donc du coup, dans son histoire, la Prairie a demandé plusieurs fois à pouvoir intégrer complètement l'éducation nationale publique. Ça n'a jamais été possible. En tout cas, les concessions qu'on nous demande, ça serait faire trop de coupes dans le projet pour que ça soit acceptable.
Regardez bien sur la carte où est la Norvège. On s'est dit, dès le départ, désobéisseurs. Concrètement, si tu veux, on ne fait pas, par exemple, l'aide personnalisée. C'est-à-dire que, tu sais, ils demandent à ce que les enfants en difficulté fassent 2 heures de plus que les autres. Soit entre midi et deux, soit après l'école, soit des mercredis où les autres font des ateliers. Enfin, ça nous a paru tellement injuste. Et puis, en plus, l'aide aux enfants en difficulté, on l'a fait tous les jours dans nos classes. On a des systèmes de travail par groupe. On a la chance d'avoir aussi une maîtresse E qui est dans notre établissement, c'est-à-dire une maîtresse d'aide, quoi. Et donc, on travaille chaque classe avec elle à certains moments de la semaine. Toi. Les évaluations CE1 et CM2, ça fait 3 ans qu'on les refuse, enfin qu'on les refuse, disons qu'on ne les fait pas au moment où on nous les demande. D'une part, parce qu'on demande de les faire en janvier, et puis il y a des tas de notions qu'on n'a pas vues, donc faire une évaluation, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, ça nous paraît absurde. Tu vois. On s'en sert, parce qu'elles sont assez bien faites, mais en juin, c'est-à-dire lorsqu'on a vu toutes les notions qui sont évaluées. Alors, ce qui est très, très important, c'est qu'on ne les fait pas remonter. Ils veulent qu'on les fasse remonter pour alimenter bas élèves. Tu vois, qui est un fichage dès le plus jeune âge. D'ailleurs, ça peut commencer même de la maternelle, des élèves jusqu'à 18 ans et plus, quoi. Donc, ce fichage-là, on le refuse.
Caca, pipi, popo. Caca, pipi, popo.
Le socle commun des compétences, ça aussi. Sur le plan national, ça a été très discuté, puisque l'an dernier, c'était la première année où on devait évaluer les élèves de 3e sur la grille du socle commun des compétences. Certains syndicats ont dénoncé ce socle commun des compétences étant peut-être un outil un peu à double tranchant qui allait cataloguer des élèves dans des compétences particulières et les enfermer dans des étiquettes. Donc là, nous, on est dans cet état de réflexion. On a utilisé cet outil parce qu'il était oublié, il était demandé par l'Académie. Et cette année, on va le traduire, comme on a fait pour la note de vie scolaire, dans un outil positif qui va alimenter notre projet pédagogique. Mais on va se servir de ce que l'Académie nous donne comme outil de base pour l'aménager à notre sauce pour que l'élève y retrouve cette dynamique, ce souci de s'auto-évaluer à travers ses compétences. Voilà, c'est un chantier de cette année. Ce soir, à la réunion de ce soir, il y a un groupe de travail sur ce thème-là.
Sacha. Allez, vas-y. Mets-la sur le panneau. Voilà, Sacha, elle est dans la classe. La classe soleil. Alors, et cette petite fille-là, cet enfant-là, est-ce qu'il est dans la classe soleil?
Parfois, je me dis, mais est-ce que ça marcherait avec une autre population d'enfants, avec des enfants? Avec l'école du quartier, quoi, en fait, dans l'école du quartier. Et je pense que dans la majorité des écoles, en tout cas, ça peut marcher. Après, je pense que dans les écoles de banlieue ou les écoles avec des enfants, des populations plus compliquées, socialement, je pense que moi, je suis persuadée que ça reste aussi une question d'effectif. Hein. Quand on a ne serait-ce que 20 enfants avec 10 gamins en difficulté sur les 20, ce qui arrive, hein, moi j'ai une copine qui a fait un CP avec 10 enfants en difficulté, mais en grosse difficulté, ben c'est évident que c'est pas possible de les accompagner, quoi. Enfin, moi, personnellement, même je vois ici, quand on est en primaire, très vite on fait des demi-groupes puisqu'on a les intervenants musique, bibliothèque, etc. Et c'est vrai que d'avoir 10 enfants ou 13 enfants dans la classe, mais on voit tout de suite où ils en sont, de quoi ils ont besoin, quelle est l'attitude qu'on doit avoir avec eux. Et ça se voit quand on est en petit groupe, quand on est les allées 25 ensemble tout le temps. C'est hyper compliqué et d'autant plus quand il y a des enfants en difficulté. Parce que déjà, un enfant en difficulté dans une classe, c'est pas rien si on veut vraiment l'aider. Mais quand il y en a trop, c'est hyper compliqué, quoi. Moi, j'ai toujours pensé que c'était des écoles. J'aurais aimé y travailler, quoi, quelque part, parce que je me dis que c'est des écoles qui doivent s'ouvrir sur l'extérieur, qui doivent être au plus proche du quotidien de ces enfants-là pour arriver à les amener tout doucement vers l'apprentissage. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas expérimenté, mais ça m'intrigue. À des moments, on se dit, ouais, on est quand même... Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle, quoi, avec des parents qui sont, mine de rien, très confiants. En équipe, on s'entend bien. Enfin, je veux dire, il y a un réel travail d'équipe, etc. Donc, qu'est-ce que ça donnerait ailleurs? Je ne sais pas.
À l'école ce matin, c'est quelqu'un qui ne regarde pas du tout. Annette.
Je bosse, tu sais, une fois par mois, on se retrouve avec des instituts du public qui sont la plupart dans des ZEB, justement. Et qui donc applique les dispositifs de pays, de pédagogie institutionnelle. Alors bon, avec des difficultés plus ou moins grandes, etc. Mais c'est tout à fait transposable, quoi. D'ailleurs, celui qui a introduit, disons, la pays en France, Fernand Houry, il a commencé, je l'avais dit déjà, dans des classes de perfectionnement, quoi, des classes avec des élèves durs, quoi. Donc c'est vraiment. Les dispositifs de pays, ça permet de structurer, quoi. Et les gamins qui viennent de ZEP, justement, ils ont la plupart du temps pas de structure, quoi. Le fait de trouver des structures, une loi, un cadre, les aide. Parce qu'ils n'en ont pas assez chez eux ou dans leur quartier, toi. Donc c'est important pour ça. Et donc, bon, moi, je l'ai jamais fait, si tu veux. Parce que je n'étais instite que ici. Mais je sais que ça se fait, que je suis en rapport avec des instites qui travaillent dans des ZEP et donc qui sont avec des gamins comme ça. Et bon, c'est pas non plus miraculeux, si tu veux, mais ça, souvent, ça apporte sa structure, ça apporte un cadre dont ces gamins ont besoin.
Qui a dans son prénom cette lettre B? Comment tu t'appelles?
Béatrice. Oui, Béatrice. Hein. Alors, Béatrice, pourquoi je ne fais pas
si en faisant la promotion d'une certaine éducation ouverte avec moins d'autorité, avec moins d'autoritarisme, moins d'ambiance militaire, enfin, etc. Si en plus elle ne prend pas position, enfin, ça me paraîtrait complètement aberrant, quoi. Enfin, ça, je pense que justement, c'est ce genre d'école-là qui doit lutter en premier pour déjà ne pas disparaître, hein, et puis surtout pour faire en sorte que le reste de l'éducation nationale, qui se retrouve de plus en plus sclérosée, avec, on le voit, en fait, les classes qui, des classes de plus en plus nombreuses, des profs de plus en plus stressés, des programmes de plus en plus à la com. Voilà, avec, je pense que ce genre d'école a intérêt à effectivement être devant dans les manifs pour espérer qu'un jour ou l'autre elle ne disparaisse pas pour X, Y raison, quoi, parce que effectivement ça. Bon, tant que ça reste éparpillé un petit peu comme ça, et puis il n'y en a pas beaucoup non plus, quoi, donc en France, quoi, donc ça reste des expériences un peu utopiques, des îlots comme ça, un petit peu à droite à gauche, mais je pense qu'il faut quand même le protéger, ouais, parce que sinon, c'est pas voué à rester éternel.
Alors pourquoi il n'y a pas plus d'initiatives comme la prairie? Je ne sais pas, ça c'est une question politique. Pourquoi? Parce que le sens des réformes qui actuellement, depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, dans l'école, c'est pour transformer les gens en obéissant, quoi, en mouton, pas en robot, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est l'idée de ne pas les rendre autonomes, de les rendre dépendants de leur chef. Enfin, tu vois, y a un principe de hiérarchie qui est vachement important et que nous, on combat, quoi. Même entre nous, je veux dire, on n'a pas de rapport hiérarchique du tout, quoi, avec la directrice. Bon, ben, c'est une de nos pères, on change, quoi, tous les 3 ans. Donc, il y a vraiment ça qu'on veut garder, qui est un principe important et qui est actuellement, de plus en plus, quoi, qui est nié. Quoi, on nous met dans des cadres, on doit remplir des tas de papiers, des tas d'évaluations de compétences, il faut mettre des croix, des machins. Ça déshumanise complètement, quoi.
La Prairie, une production Faïdos Sonore, septembre 2011.